Chapitre 7 Les sept églises. L'homme est un trio de corps, âme et esprit. Entre l'esprit et le corps, il y a un médiateur. C'est l'âme. Nous, les gnostiques, savons que l'âme est vêtue d'un habit merveilleux. C'est le corps astral. Par nos études gnostiques nous savons, que l'astral est un double organisme doté de merveilleux sens internes. Les grands clairvoyants nous parlent des sept chakras et M. Liebdeat les décrit avec un luxe de détails. Ces chakras sont réellement l'essence du corps astral. Les 10 centres magnétiques se trouvent en intime corrélation avec les glandes de sécrétion interne. Dans le laboratoire de l'organisme humain, il y a 7 ingrédients soumis à un triple contrôle nerveux. Les nerfs, en tant qu'agent de la loi du triangle, contrôlent le septénaire glandulaire. Ces 3 contrôles nerveux différents, qui sont en interaction sont les suivants. Premièrement, le système nerveux cérébro-spinal, agent des fonctions conscientes d'uximement. Le système nerveux grand sympathique, agent des fonctions subconscientes, inconscientes et instinctives. Troisièmement, le système parasympathique ou vague, qui collabore en freinant les fonctions instinctives sous la direction du mental. Les 7 églises les conduits spinaux. Le système cérébro-spinal est le trône de l'esprit divin, le système grand sympathique est le véhicule de l'astral. Le vague ou parasympathique obéit aux ordres du mental. 3 rayons et 7 centres magnétiques sont la base de tout cosmos, tant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Il est en haut comme il est en bas, les 7 glandes les plus importantes de l'organisme humain, constituent les 7 laboratoires contrôlés par la loi du triangle. Chacune de ces glandes a son correspondant dans un chakra de l'organisme. Chacun des 7 chakras se trouve être en intime corrélation avec les 7 églises de la moelle épinière. Les 7 églises de l'épine dorsale contrôlent les 7 chakras du système nerveux grand sympathique. Les 7 églises entrent en intense activité, avec l'ascension du Kundalini, le long du canal médulaire. Le Kundalini demeure dans les électrons. Les sages méditent en lui, les dévots l'adorent, dans les foyers où règne le mariage parfait, on travaille avec lui, d'une manière pratique. Église d'Éphèse. Le Kundalini est le feu solaire enfermé dans les atomes séminaux, la substance électronique ardente du soleil qui, lorsqu'elle est libérée, nous transforme en Dieu terriblement divin. Les feux du cœur contrôlent l'ascension du Kundalini par le canal médulaire. Le Kundalini se développe, il évolue et progresse en accord avec les mérites du cœur. Le Kundalini est l'énergie primordiale enfermée dans l'église d'Éphèse. Cette église se trouve 2 doigts au-dessus de l'anus et 2 doigts en dessous des organes génitaux. Le divin serpent de feu sommeille dans son église, enroulé 3,5 fois. Quand les atomes solaires et lunaires font contact dans le tribuné, près du coccyx, le Kundalini, le serpent inné de nos pouvoirs magiques, s'éveille. Au fur et à mesure que le serpent monte par le canal médulaire, il met en activité chacune des 7 églises. Les chakras des gonadoglandes sexuelles sont dirigés par Uranus, et la glande pinéale, située dans la partie supérieure du cerveau, est contrôlée par Neptune. Entre cette paire de glandes, existe une étroite corrélation, et le Kundalini doit être connecté avec le feu sacré. Pour parvenir à la réalisation à fond, l'église d'Éphèse est un lotus de 4 pétales splendides. Cette église a l'éclat de 10 millions de soleils. La terre élémentale des sages est conquise avec le pouvoir de cette église. Église de Smyrne des Saints. L'ascension du Kundalini à la région de la prostate met en activité les 6 pétales de l'église de Smyrne. Cette église nous confère le pouvoir de dominer les eaux élémentales de la vie et la joie de créer. Église de Pergame des Saints. Quand le serpent sacré arrive dans la région du nombril, nous pouvons dominer les volcans, parce que le feu élémental des sages correspond à l'église de Pergame, située dans les plexus solaires. Ce centre contrôle la rate, le foie, le pancréas, etc., etc. Le centre de Pergame a 10 pétales. Église de Thyatire des Saints. L'église de Thyatire aux 12 merveilleux pétales se met en activité avec l'ascension du Kundalini à la région du cœur. Cette église nous confère le pouvoir sur l'air élémental des sages. Le développement de ce centre cardiaque confère inspiration, pressentiment, intuition et pouvoir pour sortir consciemment en astral, ainsi que le pouvoir de mettre le corps en l'état de Jina. Le chapitre 2 de l'Apocalypse porte sur les quatre églises inférieures de notre organisme. Ce sont quatre centres connus en tant que le fondamental ou basique, le prostatique, l'ombilical et le cardiaque. Maintenant, nous étudierons les trois centres magnétiques supérieurs mentionnés par l'Apocalypse dans le troisième chapitre. Ces trois églises supérieures sont l'église de Sardes, celle de Philadelphie, et finalement celle de Laodicée. L'ascension du Kundalini à la région du larynx créateur nous confère le pouvoir d'écouter les voix des êtres qui vivent dans les mondes supérieurs. Ce chakra est en relation avec l'Akasa puis Akasa est l'agent du son. Le chakra laryngien est l'église de Sardes. Quand le Kundalini ouvre l'église de Sardes, alors, fait verbe, il fleurit sur nos lèvres fécondes. Le chakra laryngien a 16 merveilleux pétales. Le développement complet de ce centre akashique nous permet de conserver le corps vivant, même pendant les nuits profondes du grand pralaya. L'incarnation du grand verbe est impossible si le serpent sacré n'a pas été éveillé. L'agent du verbe est précisément l'akasa et l'éto-verbe, ce que les fils conducteurs sont à l'électricité. Le verbe a besoin de l'akasa pour se manifester. Akasa est l'agent du son. Le Kundalini est l'akasa. Akasa est sexuel. Le Kundalini est sexuel, le centre magnétique où normalement vit le Kundalini, est absolument sexuel comme le démontre concrètement l'endroit où il est situé, deux doigts au-dessus de l'anus, et près de deux doigts en dessous des glandes génitales, quatre doigts de largeur. C'est l'espace où il est situé. Le clairvoyant bavard peut aussi perdre l'équilibre du mental. Le clairvoyant doit être muet, humble, modeste. Le clairvoyant doit être comme un enfant. Quand le Kundalini parvient à la hauteur de la glande pinéale, s'ouvre l'église de Laodicée, cette fleur de lotus et mille pétales resplendissants. La glande pinéale est influencée par Neptune. Quand s'ouvre cette église, nous recevons la polyvoyance, l'intuition, etc. La pinéale est en relation intime avec les chakras des gonades ou glandes sexuelles. À meilleur degré de puissance sexuelle, meilleur développement de la glande pinéale. À moindre degré de puissance sexuelle, moindre développement de la glande pinéale. Uranus, dans les organes sexuels, et Neptune dans la glande pinéale, s'unissent pour nous amener à la réalisation totale dans les écoles de régénérescence immortellement détestées par les infrasexuels. On nous enseigne à travailler pratiquement avec la science d'Uranus et de Neptune. Le sentier Tao inclut trois sentiers, lui-même étant le quatrième. On a beaucoup dit à propos des quatre sentiers. Nous, les gnostiques, parcourons le quatrième sentier en pleine conscience. Au cours de l'acte sexuel, nous transmutons les instincts brutaux du corps physique en volonté, les émotions passionnelles de l'astral en amour, les impulsions mentales en compréhension, et nous, en tant qu'esprit, réalisons le grand œuvre. Ainsi, parcourons-nous les quatre sentiers dans la pratique. Nous n'avons pas besoin de devenir des fakirs pour le premier sentier, ni des moines pour le deuxième, ni des érudits pour le troisième. Le sentier du mariage parfait nous permet de parcourir les quatre sentiers pendant l'acte sexuel même. Du premier au septième verset, l'Apocalypse parle du centre coccygien. Dans ce centre se trouve l'église d'Éphèse. Dans ce centre créateur se trouve enroulé le serpent igné, trois fois et demi. Qui le réveille et le fait monter par sa colonne vertébrale, reçoit l'épée flamboyante et entre alors dans l'Éden. Dans le serpent réside la rédemption de l'homme, mais nous devons nous être en garde contre l'astuce du serpent. On doit contempler le fruit défendu et respirer son parfum, mais rappelez-vous ce que dit le Seigneur Jéhovah: si tu mangeais de ce fruit, tu mourrais. Nous devons jouir de la joie de l'amour et adorer la femme. Un beau tableau nous ravit, un beau morceau de musique nous amène à l'extase, mais une belle femme adorable nous donne envie de la posséder à l'instant même. Elle est la vivante représentation du Dieu mort. L'acte sexuel avec l'adoré, ad indiscutable délice la jouissance sexuelle, est un droit légitime de l'homme. Jouissez de la joie de l'amour, mais ne répandez pas le semen. Ne commettez pas de sacrilège, ne soyez pas fornicateur. La chasteté nous convertit en Dieu, la fornication nous convertit en démon crémelleur. Adilé se tient adorer la grande lumière et disait que le soleil, en ses émanations, formant nous un nez, y constitue le serpent. Les Nazaréens dirent: vous tous serez des dieux, si vous sortez d'Égypte et passez la mer rouge. Crémelleur nous raconte, dans son église gnostique, que cette secte gnostique avait, comme objet sacré, un calice, dans lequel il buvait le semen de Benjamin. Celui-ci, selon Wiracocha, était un mélange de vin et d'eau. Le grand maître Crémel leur dit que jamais ne manquait, sur les autels des Nazaréens, le symbole sacré du serpent sexuel. Réellement, la force, le pouvoir qui accompagna Moïse, fut le serpent sur la verge, qui se convertit ensuite, en la verge même. Le serpent fut certainement celui qui parla aux autres serpents, et celui qui tenta Ève. Le sage Wiracocha, dans un autre paragraphe de son œuvre immortelle intitulée L'Église gnostique d'Imoise dans le désert, montre à son peuple le serpent sur la verge, et leur dit que s'ils mettaient le serpent à profit, il ne leur arriverait rien au cours de leur trajet. Tout le pouvoir merveilleux de Moïse résidait dans le serpent sacré du Kundalini. Moïse pratiqua intensément la magie sexuelle, afin de lever le serpent sur la verge. Moïse eut une femme. Dans la nuit effroyable des siècles passés, les sublimes et austères hiérophantes des grands mystères furent les gardiens jaloux du grand arcane. Les grands prêtres avaient prêté serment de silence, et la clé de l'arche de la science s'occultait aux yeux du peuple seul. Les grands prêtres connaissaient et pratiquaient la magie sexuelle. La sagesse du serpent est la base des grands mystères. Elle se cultiva dans les écoles de mystères d'Égypte, Grèce, Rome, Inde, Perse, Troie, Mexique, Aztèque, Pérou, Incaïque, etc., etc. Crémelleur nous raconte que dans le champ d'Homme, Admeté trouve dans une bibliothèque russe, on voit que tout tournait autour d'un fait physiologique cosmique de grande transcendance dans ce chant archaïque, de cet homme-dieu qui chanta la vie étroite et la colère d'Achille. Se voit clairement la magie sexuelle, servant de pierre angulaire au grand temple d'Eleusis, le ballet nu, la délicieuse musique de temple, le baiser qui enivre, l'enchantement mystérieux de l'acte secret, faisait d'Eleusis un paradis de dieux et déesses adorables. Alors, personne ne pensait à porcherie, mais bien à des choses saintes et sublimes. À personne ne serait venue l'idée de profaner le temple. Les couples savaient se retirer à temps, afin d'éviter l'épanchement du vin sacré. En Égypte apparaît Osiris, le principe masculin, face à Isis, l'éternel et adorable féminin. En ce pays ensoleillé de Khem, le Seigneur de toute perfection travailla aussi avec le grand arcane ZF, précisément, alors qu'il se trouvait dans sa période de préparation initiatique, avant le début de sa mission. Ainsi, est-il écrit dans les mémoires de la nature. En Phénicie, à Hercule et Dagon s'aiment intensement, en Attique, Pluton et Perséphone, mais, comme dit le docteur Crémelleur, chez eux, on parlait déjà clairement du phallus et de l'utru. Social lingamion et des mystères grecs. Les grands prêtres d'Égypte, antiques héritiers de la sagesse archaïque que cultivèrent les Atlantes, représentaient le grand dieu Ibis de Thau, le membre viril en érection, et Crémelleur raconte que sur ce phallus en érection d'Ibis de Thau, fut écrite une phrase qui disait: celui qui donne la raison. Jointe à l'inscription, resplendissait, glorieusement, une fleur de lotus. Les vieux sages de l'Égypte sacrée gravèrent sur leur mur millénaire le divin symbole de la couleuvre sexuelle. Le secret de la magie sexuelle était incommunicable. Ceci est le grand arcane. Les malheureux qui divulguaient cet indicible secret étaient condamnés à la peine de mort. On les amenait à une cour empierrée, et devant un mur millénaire couvert de peaux de crocodile et d'indéchiffrables hiéroglyphes, on leur coupait la tête, on leur arrachait le cœur et leurs cendres maudites étaient dispersées aux quatre vents. Il nous vient maintenant à la mémoire Cazotte, le grand poète français qui mourut sous la guillotine, pendant la Révolution française. Cet homme prophétisa sa propre mort, dans un banquet célèbre, ainsi que le sort fatal qui attendait un certain groupe de nobles, initiés qui projetaient la divulgation du grand arcane aux uns. Il prophétisa la guillotine, aux autres, le poignard, le poison, la prison, l'exil. Ces prophéties s'accomplirent, avec une absolue exactitude. Au Moyen Âge, celui qui divulguait le grand arcane, mourait mystérieusement, soit par les chemises de Nessu, soit par des savonnettes envenimées, qu'on apportait comme cadeau d'anniversaire à la porte du condamné, soit au moyen de bouquets parfumés ou du poignard. Le grand arcane est la clé de tous les pouvoirs et la clé de tous les empires. Les pouvoirs de la nature se déchaînent contre les audacieux qui tentent de la dominer. Les grands hiérophantes cachent leurs secrets, et les rois divins ne remettent à aucun mortel, la clé secrète de leur pouvoir infortune, malheureux le mortel qui, après avoir reçu le secret de la magie sexuelle, ne sait pas en profiter. À celui-là, mieux vaudrait n'être pas né, ou se mettre au cou une roue de moulin, et se jeter au fond de la mer, la réalisation cosmique de l'homme n'intéresse pas la nature, et ceci va même contre ses propres intérêts. C'est là la cause pour laquelle il s'oppose de toutes ses forces à l'audacieux qui veut la dominer. C'est l'occasion précisément de rappeler une curieuse anecdote. En certaine occasion, un pauvre gardien des douanes se promenait en bordure de mer. Soudain quelque chose attira son attention. Il vit, dans le sable fouetté par les vagues des chaînes et du Caraïbe, un objet de cuir. L'homme s'en approcha, et, à sa grande surprise, se trouva face à une petite valise de cuir noir. Immédiatement, il se dirigea vers la capitainerie du port, et remit cet objet à son supérieur. Sa mission accomplie, il s'en fut chez lui. Quand, le jour suivant, il vint à son travail, l'officier supérieur, rempli de grande colère, lui remit une monnaie de 20 centimes, en lui disant « Imbécile, ceci est tout ce que tu mérites, prends cette monnaie pour te pendre. Tu ne mérites pas de vivre, achète-toi une corde, avec ces 20 centimes et pends-toi à un arbre. La chance vint à toi et tu la déprécias. La valise que tu m'as remise, contenait près d'un million de dollars. Va-t'en hors d'ici, imbécile, tu ne mérites pas de vivre. » Réellement, ceci est le sort fatal qui attend ceux qui ne savent pas profiter d'autres précieux trésors du grand arcane et ne méritent pas de vivre. Jamais de la vie on n'avait enseigné le grand arcane de la magie sexuelle, et maintenant nous le divulguons. Malheureux ceux qui, après avoir trouvé sur leur chemin le trésor des rois, le déprécient, comme le garde de l'exemple. Le trésor du grand arcane vaut bien plus que la fortune rencontrée par le garde. Déprécier cela, c'est réellement être un imbécile. Pour éveiller le Kundalini, on a besoin de la femme. Néanmoins, nous devons avertir, que l'initié doit pratiquer la magie sexuelle avec une seule femme. Ceux qui pratiquent la magie sexuelle avec différentes femmes, commettent le délit d'adultère, ceux-là ne progressent pas dans ses études. Il existe, malheureusement, des sujets qui utilisent la magie sexuelle, comme prétexte pour séduire les femmes. Ceux-ci sont les profanateurs du temple. Semblable sorte d'hommes tombent inévitablement dans la magie noire. Nous prévenons les femmes, afin qu'elles fassent très attention à ces pervers personnages de la sexualité. Il y a aussi nombre de femmes qui, sous prétexte, dit-on, de se réaliser à fond, se joignent à n'importe quel mâle. Ce que veulent ces femmes passionnelles, c'est assouvir leurs désirs charnels. Le monde est toujours le monde et, depuis que nous divulguons le grand arcane, ont apparu, comme il fallait s'y attendre, les porcs qui piétinent la doctrine et meurent ensuite, envenimés par le pain de la sagesse. Le culte de la magie sexuelle ne peut se pratiquer qu'entre mari et femme. Nous éclairons ce point, afin d'éviter les séductions et raptes charnels, et les saintes luxures passionnelles. La force sexuelle est une arme terrible. Les scientifiques n'ont jamais pu trouver l'origine de l'électricité. Nous affirmons que nous devons chercher la cause de l'énergie électrique dans la force sexuelle universelle. Cette force ne réside pas seulement dans les organes de la sexualité, mais aussi dans tous les atomes et électrons de l'univers. La lumière du soleil est un produit de la sexualité. un atome d'hydrogène, s'unit sexuellement à un atome de carbone pour produire la lumière solaire. L'hydrogène est masculin. Le carbone est féminin. De l'union sexuelle des deux, résulte la lumière solaire. Les études du processus du carbone s'avèrent très intéressantes. Ces processus sont la gestation de la lumière. La causa causorum de l'électricité, nous devons la chercher dans le feu serpentin universel. Ce feu demeure dans les électrons. Les sages méditent en lui, les mystiques l'adorent et, ceux qui suivent le sentier du mariage parfait, travaillent avec lui de manière pratique. La force sexuelle dans les mains des mages blancs et mages noirs est une arme terrible. La pensée attire le fluide sexuel à l'épine dorsale, pour le déposer dans le sac qui lui correspond. On perd, par l'épanchement fatal de ce fluide, des billions d'atomes solaires. Le mouvement de contraction sexuelle, qui suit l'écoulement du semen, recueille des billions d'atomes sataniques, des enfers atomiques de l'homme, qui remplacent les atomes solaires perdus. C'est ainsi que nous formons le diable en nous. Quand nous réfrénons l'impulsion sexuelle en nous, alors, le merveilleux fluide revient au corps astral, multipliant ses ineffables splendeurs. C'est ainsi que nous formons le Christ en nous. Ainsi donc, nous pouvons former en nous, avec l'énergie sexuelle, le Christ ou le diable. Le grand maître, en sa qualité de Christ cosmique incarné dit « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant ». Quiconque mangerait ce pain, aura la vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon sang, aura la vie éternelle, et je le ressusciterai. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Le Christ est l'âme solaire. L'esprit vivant du soleil. Avec sa vie, il fait croître l'épi du blé et, dans le grain, dans la semence, reste enfermée toute la puissance du logo solaire. Dans toute semence végétale, animale ou humaine, se trouve enfermée, comme à l'intérieur d'un précieux étui, la substance christonique du logo solaire. En faisant retourner l'énergie créatrice à l'intérieur de nous et vers le haut, germe, mais en notre intérieur un merveilleux enfant. Un corps astral christifié. Ce véhicule nous confère l'immortalité. Il est notre Christo médiateur, c'est grâce à ce véhicule, que nous arrivons au Père qui est en secret. Personne n'arrive au Père, sinon par moi, a dit le Seigneur de toute perfection. Le fantôme astral que possèdent les mortels, n'est rien d'autre qu'une ébauche de l'homme. Il n'a même pas d'unité. Ce fantôme de façade, est un repère de démons et de tout oiseau sale et abominable. À l'intérieur de ce fantôme astral, vit le moi le diable. Ce dernier est une légion infernale. Le moi est légion. Ainsi, comme un corps se compose de beaucoup d'atomes, le moi se compose de millions de moi. Intelligence diabolique, démons répugnants qui se querellent entre eux. Quand une personne meurt, elle devient seule la légion. En elle-même, la personne devient poussière. Seul cela reste vivant. Une légion de moi. Généralement, les clairvoyants rencontrent les désincarnés, habillés de différentes façons et, simultanément, plusieurs endroits. La personne semble être devenue beaucoup de personnes. C'est une légion. Mais, quand nous avons fait naître en nous un corps astral christique, nous continuons, après la mort, à vivre dans ce corps sidéral. Alors, nous sommes réellement immortels. Cette sorte de personne, qui possède un corps astral christifié, se retrouve après la mort avec la conscience éveillée. Les désincarnés communs et courants, après la mort, vivent avec la conscience endormie. La mort est réellement le retour à la conception fœtale. La mort est le retour à la semence. Quiconque meurt, revient au nouveau ventre maternel, totalement inconscient, endormi. Les gens ne possèdent même pas l'âme incarnée. L'âme des personnes désincarnées. Les personnes possèdent, incarnées, seulement un embryon d'âme. Les méchants n'ont même pas cet embryon d'âme. Nous ne pouvons incarner l'âme qu'en possédant un corps astral christifié. Les personnes communes et courantes sont seulement véhicules du moi, le nom de chaque mortel est légion. Seulement avec la magie sexuelle, nous pouvons faire naître l'astral Christ à l'intérieur de nous. La tentation est feu. Le triomphe sur la tentation est lumière. Le désir effréné fera monter le liquide astral vers le haut, vers la glande pinéale et ainsi naît en nous, l'Adam Christ, le super-homme. En excitant l'appareil sexuel pour réaliser le coït, se multiplie le semen. Quand on ne le verse pas, il se transmute et nous convertit en Dieu. Le feu sexuel est l'épée avec laquelle Dieu interne combat les ténébreux. Quiconque pratique la magie sexuelle ouvre les sept églises. Celui qui, après avoir commencé à travailler avec le Kundalini, répand le semen, échoue inévitablement, parce que le Kundalini, à ce moment, descend, une vertèbre, voire plus, selon la grandeur de la faute. Nous devons lutter, jusqu'à obtenir la chasteté parfaite, parce que sinon, je viens à toi, et bougerai ton chandelier de sa place, si tu ne te corriges pas. La vapeur qui s'élève du système séminal, ouvre l'orifice inférieur de la moelle épinière, afin que le serpent sacré entre par celui-ci. Cet orifice est fermé chez les personnes communes et courantes. La vapeur séminale des mages noirs est dirigée vers l'abîme. La vapeur séminale des mages blancs, s'élève vers le ciel. Ouvrir l'église des feux, signifie veiller le Kundalini. La couleur de ce centre est rouge sale chez le libertin, rouge jaune chez l'initié, et rouge bleu pourpre chez le mystique initié. Les atomes solaires et lunaires, se lèvent depuis le système séminal. Les vapeurs séminales ont pour base, les atomes du soleil et de la lune. Les vapeurs séminales se transmutent en énergie. Les énergies se bipolarisent en positive et négative, solaire et lunaire. Les énergies montent par les canaux sympathiques d'Ida et Pingala, jusqu'au calice. Ce calice est le cerveau. Les deux canaux sympathiques par où monte le semen complètement converti en énergie, sont les deux témoins de l'Apocalypse, les deux oliviers du temple, les deux chandeliers qui sont devant le dieu de la terre, les deux serpents qui s'enroulent sur les verges du caduc et de Mercure. Quand ils se heurtent avec la queue, les atomes solaires et lunaires font contact dans le coccyx, près du tribéni. Alors, le Kundalini s'éveille. Le serpent igné de nos pouvoirs magiques sort de la poche membraneuse où il était enfermé, et monte par le canal médulaire, jusqu'au calice cerveau. Du canal médulaire, se détachent certains fils nerveux, qui connectent les sept chakras ou plexus sympathiques, avec la colonne vertébrale. Le feu sacré met en activité les sept centres magnétiques. Le Kundalini coordonne l'activité des sept chakras de merveilleuse manière. Nous pourrions représenter tout ceci, par une verge à sept roses odorantes et belles. La verge représenterait la colonne vertébrale, et les sept roses représenteraient les sept chakras, ou centres magnétiques. Les tiges délicates de ces sept roses de feu ardent, sont les fils fins qui les unissent à la colonne vertébrale. Dans le semen, les puissances de la lumière combattent contre les puissances des ténèbres. L'avènement du feu, est l'événement le plus grandiose du mariage parfait. Le centre où le serpent se trouve enroulé, a quatre pétales, dont deux seulement, sont en activité. Les deux autres, avec l'initiation, entrent en activité. Le chakra prostatique a six couleurs très précieuses rouge, orangé, jaune, vert, bleu et violet. C'est l'église de Smyrne. Ce centre est, pour le mage, d'une extrême importance. Par ce centre, nous contrôlons l'acte sexuel. C'est le centre magnétique de la magie pratique. Le troisième centre est l'église de Pergame. C'est le cerveau des émotions. Nous avons, un vrai central sans fils établi à l'intérieur de l'organisme humain. Le centre récepteur est le centre ombilical. L'antenne émettrice est la glande pinéale. Les ondes mentales de ceux qui pensent à nous, arrivent au centre ombilical, ou cerveau des émotions et, ensuite, passent au cerveau, où ces pensées se font conscientes en nous. L'église de Thyatira, le quatrième centre, est digne de toute admiration. Le cardia, ou centre cardiaque, est en intime relation avec le cœur du système solaire. L'homme est un univers en miniature. Si nous voulons étudier l'univers, Nous devons étudier l'homme. Dans l'univers, nous découvrons l'homme. Dans l'homme, nous découvrons l'univers. Le système solaire, vu de loin, paraît réellement un homme glorieux, cheminant dans l'inaltérable infini. Là, tous les temps se sont convertis en une forme vivante, pleine d'ineffable musique, la musique des sphères. Un instant de perception de cet homme céleste, est de 80 ans. Le cœur de cet homme céleste se trouve réellement au centre du disque solaire. Ceux qui savent voyager, conscient, et positivement, encore astral, pourraient visiter ce temple, un gigantesque abîme, plus noir que la nuit, conduit à ce sanctuaire. Peu sont ceux qui ont le courage de descendre à cet abîme fatal. Dans les effrayantes profondeurs de cet abîme solaire, on peut percevoir des choses terribles, flammes embrassantes, l'épouvante du mystère. Ceux qui ont le courage de descendre par là, rencontreront le vestibule du sanctuaire, un adepte les bénira d'un rameau d'olivier. Heureux ceux qui parviennent à être admis dans l'endroit secret. Un passage étroit conduit le disciple aimé à l'endroit secret du sanctuaire, cet endroit est le Cassia du système solaire. Dans cet endroit sacré, viennent les sept saints. Ce sont les recteurs des sept rayons solaires. Le rayon le plus important, est celui du Kundalini, ou feu serpentin qui scintille intensément à l'aurore. Tout mariage parfait doit pratiquer la magie sexuelle à l'aurore. Le système solaire, est le corps d'un grand être. Celui-ci est toute perfection. Le cœur de ce grand être, est dans le soleil. Le chakra du cœur a 12 pétales, 6 actifs et 6 inactifs. Avec le feu sacré, les 12 pétales entrent en activité. Nous devons agir sur le cœur, au moyen de la prière intensive. Église de Sardes. Le cinquième centre est l'église de Sardes. C'est le centre du larynx créateur. C'est le lotus aux 16 pétales. Quand l'être humain met en activité, ce lotus au moyen du feu, alors, il reçoit l'OUIE magique. Le feu sacré, se fait créateur dans la gorge. Les anges créent par le pouvoir de la parole. Le feu, fait verbe, fleurit sur les lèvres fécondes. L'initié est capable de créer, n'importe quoi avec la pensée, et de la matérialiser ensuite avec la parole. Le fait d'entendre avec l'OUIE magique, n'a pas été bien défini par les occultistes. Nous devons avertir, que celui qui a l'OUIE magique, peut réellement entendre les sons internes, les percevoir presque physiquement, ou mieux pourrait-on dire, de manière semblable aux perceptions physiques. L'OUIE magique nous permet d'écouter les anges. Quand la totalité de l'énergie créatrice monte au cerveau, nous nous élevons au stade angélique. Alors, nous prions avec le pouvoir de la parole. On n'arrive pas à ces hauteurs par l'évolution mécanique de la nature. L'évolution est le mouvement de la vie universelle, mais n'élève personne au stade angélique. Le super-homme n'intéresse pas la nature. Elle contient toutes les possibilités, mais le super-homme est même contraire à ses intérêts créés. Les forces les plus terribles de la nature, s'opposent à la naissance du super-homme. L'ange, le super-homme, est le résultat d'une terrible révolution de la conscience. Personne n'est obligé d'aider l'individu dans cette révolution. Ceci est question très intime de chacun. Le problème est absolument sexuel. Il faut dégainer l'épée, et combattre contre la terrible force de la nature, qui s'oppose à la naissance du super-homme. Église de Philadelphie. Quand le feu sacré ouvre le chakra frontal, l'église de Philadelphie, avec ses 2 pétales merveilleux, et ses innombrables splendeurs, alors, nous pouvons voir par clairvoyance. Les gens sont accoutumés à vivre en théorisant, et à jurer de choses qu'ils n'ont jamais vues. Il est nécessaire d'éveiller la clairvoyance, pour voir les grandes réalités internes. Le chakra frontal est le trône du mental. Quand l'étude et la clairvoyance, vont de manière équilibrée et harmonieuse, alors nous entrons de fait dans le temple du vrai savoir. Beaucoup affirment ce qu'ils ont lu, répètent des lumières empruntées. Cette sorte de gens croient savoir, mais jamais ils n'ont vu ce qu'ils ont lu, ils répètent ainsi que des perroquets. C'est tout. Ces gens ne savent rien. Ils sont des gens ignorants. Ils sont des ignorants instruits. Pour savoir, il faut d'abord être. La clairvoyance est l'œil de l'être. L'être et le savoir doivent aller équilibrés et de façon parallèle. Ceux qui ont eu beaucoup d'occultisme se sentent sages. Ces pauvres gens, s'ils n'ont pas vu ce qu'ils ont lu, on peut assurer qu'ils ne savent absolument rien. Il existe, dans le monde, des voyants de tous les types. Le vrai clairvoyant ne le dit jamais. Tout étudiant d'occultisme, quand il a ses premières visions clairvoyantes, a tendance à les raconter à tout le monde. Alors, les autres se rient de lui, et, comme les vibrations des gens sont négatives, le débutant finit par perdre l'équilibre du mental. La clairvoyance sans initiation conduit les étudiants à l'erreur, et même au délit de calomnie et injure, parfois à l'homicide. Celui qui a des éclairs de clairvoyance voit par exemple, en astral, sa femme adultérant avec un de ses amis, et si le voyant n'a pas d'initiation et s'il est jaloux, il pourrait alors assassiner sa femme ou son ami, même si sa femme est une sainte, et son ami, un véritable et loyal serviteur. Tenez compte de ce que, dans l'astral, l'être humain est légion et chaque moi pluralisé, répète des actes commis dans des vies antérieures. Les grands maîtres de la loge blanche ont été calomniés par les voyants. Tout maître a un double, exactement semblable à lui. Si le maître prêche la chasteté, le double prêche la fornication. Si le maître fait de bonnes œuvres, son double fait de mauvaises œuvres. Il est exactement son antithèse. Pour toutes ces choses, nous pouvons n'avoir confiance, quand les clairvoyants qui sont arrivés à la cinquième initiation des mystères majeurs. En plus, il faut tenir compte qu'avant la cinquième initiation de mystères majeurs, l'être humain ne dispose pas de véhicule christifié, pour servir de temple à son Dieu interne. Ni l'âme, ni le Christ, ne peuvent entrer chez des gens qui n'ont pas de véhicule organisé. Qui n'a pas incarné son âme, n'a pas d'existence réelle. Il est une légion de moi, qui lutte pour se manifester au travers du corps de l'homme. Parfois, agit le moi je bois, d'autres fois moi, je fume, le moi, je tue, le moi, je vole, le moi, je suis amoureux, etc., etc. Entre ces moi, il y a conflit. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens, qui jurent d'appartenir au mouvement gnostique, et qui ensuite, se rétractent et se déclarent ennemis de la gnosie. Le moi qui jure fidélité à la gnosie, est détrôné par un autre qui est la gnosie. Le moi qui jure d'adorer la femme, est déplacé par un autre moi qui l'aborde. Le moi est légion de démons. Comment pourrions-nous avoir confiance en des clairvoyants, qui n'ont pas encore les âmes incarnées? L'homme qui n'a pas incarné son âme, n'a pas encore de responsabilité morale. Pourrions-nous, par hasard, avoir confiance en des démons? Les étudiants de la gnose doivent se garder beaucoup de ceux qui vont partout se déclarant, disent-ils, voyant et faisant des prophéties aux gens. Le vrai clairvoyant jamais ne dit qu'il l'est. Les maîtres de la cinquième initiation des mystères majeurs, sont très humbles et muets. Aucun étudiant d'occultisme n'est maître. Vrais maîtres, le sont seulement ceux qui ont atteint la cinquième initiation des mystères majeurs. Avant la cinquième initiation, personne n'est maître. L'ultime fleur de lotus qui s'ouvrait l'église de l'Odyssée. Église de l'Odyssée. Cette fleur de lotus est 1000 pétales. Cette fleur de lotus, resplendit glorieusement dans la tête des saints, quand aucun d'aligné arrive à la glande pénéale, s'ouvre cette fleur merveilleuse. Ceci est l'œil de la polyvoyance, l'œil de diamant. Avec cette faculté nous pouvons étudier les mémoires de la nature. Ceci est l'œil divin de l'esprit. Le premier serpent sacré passe ensuite de la glande pinéale, jusqu'à l'œil de la sagesse situé entre les deux sourcils. Puis il pénètre dans le champ magnétique de la racine du nez. Quand il touche l'atome du Père, situé en ce lieu, alors, vient la première initiation des mystères majeurs. Personne n'est maître pour le seul fait d'avoir reçu la première initiation des mystères majeurs. Ceci signifie seulement qu'il est entré dans le courant qui conduit au Nirvana. l'étudiant doit lever les sept serpents en ordre successif. Représentation de l'église de Laodicée. Le deuxième serpent appartient au corps vital, le troisième à l'astral, le quatrième au mental, le cinquième au causal. Deux des saints, le sixième et septième serpent, appartiennent à l'âme conscience et de l'esprit divin. À chacun des sept serpents correspond une initiation des mystères majeurs. Ils sont sept serpents. Deux groupes de trois, avec le sublime couronnement de la septième langue de feu qui nous unit à l'un, à la loi, au Père. Nous devons ouvrir les sept églises dans chaque plan de conscience cosmique. Au cours de l'initiation, le dévot doit recevoir les stigmates du Christ. Chacun de ces véhicules internes doit être crucifié et stigmatisé. Les stigmates sont donnés à l'homme, suivant ses mérites. Chaque stigmate a ses épreuves ésotériques. Les premiers stigmates qui se reçoivent sont ceux des mains, et les épreuves, pour les recevoir, sont très douloureuses. Les pierres précieuses aussi, jouent un rôle très important dans l'initiation, et les fondations du mur de la ville, étaient décorées de toutes pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de sardu, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième de jacinthe, la douzième d'améthyste. L'Apocalypse dit « Je suis l'alpha et l'oméga. À celui qui aura soif, je lui donnerai de la fontaine de l'eau de vie gratuitement. Je suis l'alpha et l'oméga. Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements, les sept corps dans le centre de l'annoncement christonique pour entrer par les portes de la cité. Pourtant, qu'ils sont peu nombreux réellement, ceux qui arrivent à la haute initiation. Ils sont trop peu nombreux ceux qui sont capables d'arriver jusqu'à baiser le fouet du bourreau. Baiser la main qui nous frappe, c'est très difficile et pourtant urgent, pour ceux qui arrivent à la haute initiation. Christ a dit de mille qui me cherchent, eux me trouvent. De mille qui me trouvent, eux me suivent, de mille qui me suivent, un est mien. Le plus grave, est que ceux qui ont eu beaucoup d'occultisme, et ont appartenu à beaucoup d'écoles, sont emplis d'une superbe de sainteté. Ils se croient eux-mêmes très saints et sages, bien que se vantant d'être humbles. Ces pauvres frères sont plus loin que les profanes de l'autel de l'initiation. Qui veut parvenir à la haute initiation, doit commencer par se reconnaître lui-même en tant que pervers. Qui reconnaît sa méchanceté est sur le chemin de la réalisation. Rappelez-vous que, dans l'ensemble de la prière, se cache aussi le délit. Ceci est difficile pour ceux qui ont énormément lu. Ces gens se sentent pleins de sainteté et de sagesse. Quand ils ont des étincelles de clairvoyance, ils sont alors insupportables, parce qu'ils se déclarent maîtres de sapience. Naturellement, des gens de cette sorte sont des candidats sûrs pour l'abîme et la mort seconde. L'abîme est plein de fourvoyés sincères, et de gens aux très bonnes intentions. Quand l'initié fait sortir une partie de son feu créateur par la tête, il dépose sa couronne au pied de l'agneau. Saint Jean parle des 24 anciens, qui déposent leur couronne au pied du trône du Seigneur. L'Apocalypse décrit le cavalier du chapitre 19 avec un ruban à la cuisse. Sur ce ruban est inscrite, en caractère sacré, cette phrase « Roi des rois, et Seigneur des seigneurs ». Réellement, le roi n'est pas dans le front mais il est dans le sexe. Rasputin, ivre de vin, frappait les tables de l'orgie avec le phallus sexuel, en disant « Ceci est le roi du monde ». Heureux les couples qui savent s'aimer. Avec l'acte sexuel, nous ouvrons les sept églises de l'Apocalypse, et nous nous convertissons en Dieu. Les sept chakras résonnent avec le puissant mantra égyptien FEUINDAGJ. Ce dernier mot est guttural. L'exercice parfait des sept églises, le sacerdoce complet, se réalise avec le corps en état de jina. Les grands mages savent mettre le corps en état de jina. Alors, ils exercent tout le sacerdoce des sept églises. Quand Jésus marchait sur les eaux, il avait le corps en état de jina. Dans cet état, nous sommes des dieux omnipotents. Il existe, Dans la région ombilicale, un chakra mystérieux qu'utilise le mage pour ses états de jina. S'il utilise le pouvoir de ce chakra, tout mage qui se trouve loin de son corps physique, peut prier son Dieu interne ainsi « Mon Seigneur, mon Dieu je te prie que tu m'apportes mon corps ». Le Dieu interne peut apporter le corps physique au mage en état de jina, c'est-à-dire le submerger dans le plan astral. Dans ces instants tourne le mystérieux chakra de la science de jina. Qui veut apprendre la science jina, peut étudier le livre jaune. Là, nous enseignons cette science mystérieuse. Les sept églises nous confèrent le pouvoir sur le feu, l'air, les eaux et la terre.